rue Ontario-Est et Champlain. Le Bar Grenade, une brasserie orientale, tendance et branchée dans Ville-Marie. Avec nourriture d'inspiration asiatique, c'est l'endroit idéal pour vos 5 à 7 qui se terminent aux petites heures du matin. De plus, venez assister une fois par mois aux soirées luttes de choc.ca. Sans oublier de venir nous voir aux soirées Full Moon Party thaïlandaise lors des soirs de pleine lune. À quelques pas de la station Papineau, pour une ambiance explosive, le Bar Grenade au 1603 rue Ontario-Est à Montréal.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca.
Switch off your television set immediately unless you are prepared to be really terrified.
Bonsoir, chères créatures de la nuit, bienvenue aux Oubliettes, votre sanctuaire des films étranges et oubliés en VHS. Je me présente votre animateur, Simon Predge, et ce soir, j'ai une belle ribambelle d'invités, plein d'amis. Malheureusement, il nous en manque un très précieux, Olivier Bigonès, qui ne sera pas avec nous parce qu'il est prisonnier d'une tempête à la recherche du Yeti. On le salue, il est dans l'Oural présentement. Bon voyage, tu nous ramèneras du poil. Sur ce, ben, je vous présente mes amis aujourd'hui. Je suis bien content, ça va être bien le fun, un bel épisode de Jazette qu'on a. Tout d'abord, on va avoir avec nous Benoît Mercier des Mystérieux Étonnants. Bonsoir Benoît.
Salut Predge.
Merci de te joindre à nous. On a Simon Laperrière, coprogrammateur à Fantasia et auteur qui vient nous présenter son livre « L'éloge de la nanarophilie » coécrit avec Antonio Dominguez Leva. Salut Simon, bienvenue.
Bonjour Simon.
Et on a Olivier Lefebure, chargé de projet chez Mediafilm, qui vient nous parler du Ciné-Bazar. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Simon.
Donc, plein de sujets à jaser, plein d'affaires, toutes très excitantes d'ailleurs. Ça va être vraiment ben le fun. Moi, je me lancerai tout de suite dans le gros gras du sujet. Parce que là, t'as un projet, tout d'abord, qui est Benoît Mercier?
Hein? J'en qui est-il?
On l'a déjà reçu à l'émission. Hein? On en a déjà parlé. C'est l'animateur de l'émission de podcast, aussi diffusée sur choc.ca. Les Mystérieux Étonnants, très populaire depuis 10 ans, qui nous parle de pop culture, comic book, cinéma...
Tout. Mandat est large.
C'est le fun.
Très, très large.
Il en parle.
Oui. Ben, comme tu le sais, 10 ans, ça fait 10 ans qu'on fait le show.
Ouais.
Ici même à Choc, on a fait ça même dans le temps qu'on était sur Sainte-Catherine,
studio, ben oui.
Sur les studios sur Sainte-Catherine. Donc, moi, je fais partie des meubles d'une certaine manière. Et, je vieillis comme tout le monde, mais l'entourage vieillit pas. Il reste tout le temps à 21, 22. Là, ça fait longtemps que je suis ici, ouais. Ça a été ma maison, mais les Mystérieux Étonnants, on veut passer à une autre étape. On veut avoir plein contrôle sur notre contenu et de la manière qu'on veut le diffuser.
Okay.
Et je suis bien amateur de ce qui se fait aux États-Unis, Screen Crunch, Red Letter Media, Kind of Funny. Puis c'est du contenu anglophone. Moi, je veux traiter ça d'une façon à la francophone,
ouais.
En français, puis continuer à faire ce qu'on fait. Donc, on l'a lancé un Indiegogo il y a environ 2 semaines, ça fait 13 jours. Exactement. Et on cherche à amasser 16 000 $. On est rendu à 51%.
D'accord.
8195 à l'heure qu'on se parle en ce moment, Simon. Et tout cet argent-là va aller à la construction d'un studio qui va permettre la création des contenus des Mystérieux Étonnants et éventuellement peut-être aussi la construction, la création, la production de d'autres contenus, de d'autres podcasts. Comme tu le sais, je suis un grand, grand amateur de podcasting. Je crois beaucoup là-dedans. Je pense que la scène ici au Québec devient de plus en plus intéressante. Et nous, on veut comme un peu pousser. On veut contribuer à ça et se créer une espèce de lieu de création dans lequel on va continuer à faire ce qu'on fait depuis 10 ans et faire autre chose si on peut également.
Ben c'est cool, mais c'est sûr que, bon, on va se le dire, à Choc, on n'a pas vraiment tant de carcans, mais n'empêche, c'est le fun d'avoir sa propre indépendance puis de créer ses propres règles aussi,
ouais.
J'imagine.
Oui, c'est ça. On n'a pas de grandes règles qui nous sont imposées, autant au niveau du contenu que le temps d'antenne, au niveau de, le musical versus parler. Mais ça fait longtemps que je suis ici, j'ai envie d'avoir plein contrôle sur mon produit. Des fois, je voudrais faire un show peut-être juste plus qu'une fois par semaine. Et moi, j'ai jamais caché qu'ultimement, si je peux faire de l'argent avec ça, avec mon podcasting, avec le contenu que je crée avec mes amis, des gens qui ont tous des expertises communes, ben J'ai envie de faire ça, mais comme on est sous la bannière Choc,
c'est
un peu impossible, parce que bon, c'est une radio étudiante, c'est normal. Donc nous autres, on veut s'affranchir de Choc, passer à autre chose. Je mets pas de côté tout le travail qu'on a mis ici, au contraire, on n'aurait pas pu faire ce qu'on fait en ce moment si Choc n'existait pas. Mais j'ai l'impression, je suis très optimiste du futur du podcast, et je veux contribuer à ma manière. On voit Radio-Canada en ce moment avec Première Plus, qui commence à créer ses propres contenus spécialisés. Moi, je veux faire partie de ce champ médiatique-là, et à cause que la technologie maintenant, elle est démocratisée, tout le monde peut le faire, j'ai envie de contribuer à ça.
Puis tu sais, tu disais faire de l'argent avec ça, faut pas mal le voir.
Non,
que tout le monde voudrait faire de l'argent, gagner sa vie avec ses passions. Nous, c'est nos passions, c'est de discuter de pop culture, de cinéma, de comic book, c'est nos passions. Pourquoi pas essayer de le faire comme ils réussissent à le faire aux États de plus en plus?
Mais c'est ça qui est dommage, c'est que à la base, je sais qu'il y a des gens au Québec, des francophones, qui ont un intérêt pour ces choses-là. Comme ils sont pas desservis ici, ils vont du côté des Américains, un peu du côté des Européens, avec nos cousins français. Moi, j'ai envie de créer du contenu comme ça. Puis c'est vraiment un amour de la création. Là, je parle de studio, je parle d'avoir de l'argent depuis tout à l'heure. Mais moi, je suis un tripeux de gang. Tu le sais, on a fait des projets ensemble.
Oh oui.
J'aime ça m'assire avec mes amis. Simon Lapierre, il peut le dire aussi.
Oh oui.
on a fait des projets ensemble. J'aime ça créer. Puis à un moment donné, voir ça aller tout seul. Et j'ai envie de créer vraiment cette espèce
un petit nouveau tank, là, c'est ça.
Un petit univers à nous. Et je pense qu'on est rendu là. Moi, écoute, j'ai hésité pendant un an et demi à faire ce projet-là, si c'est pas deux ans. On s'est lancé, la réponse a été vraiment fantastique. Et je sais que tu as des auditeurs, des mystérieux qui écoutent aussi les oubliettes et vice-versa. Donc, j'aimerais ça, si vous avez la chance, si vous aimez ce qu'on fait, donner un petit montant. Ça peut être 5$, ça peut être 10$. Vous pouvez donner ce que vous voulez. Sinon, il y a des perks. Donc, c'est des ensembles cadeaux. T-shirts, clés USB. Vous avez l'ensemble ultime, c'est 120$. Mais vous avez un T-shirt également. Plein d'autres affaires. Une affiche faite par notre ami Jake Dion.
Ah, puis elle était 40.
Il a tous les profits.
Ah,
il est vraiment bon.
Qui vient de sortir aujourd'hui, d'ailleurs, des premières images du comic book qu'il fait pour Turbo Kid. Ça a l'air débile. On a du sort de voir ça.
Moi, j'ai vu des extraits. Je suis dedans. Vous regardez mon caméo, mon apparition surprise. Il y a bien des gens qu'on connaît qui sont là-dedans.
C'est clair.
Donc, c'est un appel à tous. Moi, tu vois, j'ai fait mon show hier. C'était lundi. Hein?
Ouais.
À la fin de l'émission, on avait dépassé le 8000. On était passé à 8020. Moi, je veux que à la fin de cette émission-là, il reste 53 minutes. Quelqu'un a donné un petit montant sur l'Indiegogo des Mystérieux. Les liens sont disponibles sur notre Twitter, Facebook, notre site Internet. Ça serait vraiment le fun.
Ils vont être partagés aussi sur le blog après l'émission.
Super apprécié. Donc, écoute, merci pour l'invitation. Vous m'arrêtez de parler de mes affaires, mais c'était c'est tout ce que j'avais
à dire. Pas du tout. C'est super intéressant. C'est justement peut-être... Moi, ce que j'aime, d'ailleurs, c'est le nom de ta campagne, Vers un studio et plus loin encore.
Mm-hmm.
Parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça peut nous mener un nouveau projet comme ça.
Ouais.
Regarde si on prend par exemple le projet de l'Arcade Montréal.
Oui.
Ça a commencé dans un petit loft avec deux machines. Ça a grossi.
Rétro Nouveau qui est devenu justement qui va faire sa première diffusion live. Je pense que c'est en ce moment même du bar Arcade. Donc tu vois que la scène
ça grossit.
Elle bouillonne en ce moment. Puis je trouve ça intéressant. Puis j'ai envie de participer. Je parlais tantôt de vivre de ça éventuellement. Oui ou non, je me fais pas d'illusions plus, mais c'est d'y mettre le temps. Parce que quand tu mets du temps là-dedans, tu le sais, tu as 10 000 projets toi aussi.
Oui.
À un moment donné, tu t'en mets pas ailleurs. Donc,
faut choisir son projet.
Voilà.
Puis il y a investir énormément de temps. Puis ça, je pense que c'est un projet. En tout cas, moi, je te vois aller. Puis les gens, ça a fait deux semaines là, qu'ils en entendent parler de ce projet-là, là, ceux qui suivent les Mystérieux Étonnants. Mais on va se le dire, là, ça fait deux ans là, que tu travailles là-dessus. On le sait, nous autres. Là.
Ouais, ça fait un an et demi que j'essaie de me convaincre. Du monde qui m'ont poussé dans le derrière pour lancer la campagne. Parce que même si ça fait 10 ans, je prends pas pour acquis que les gens allaient donner de l'argent. Moi, dans ma tête, je me dis, après deux semaines, on va avoir 1000$ ou gros maximum. Puis, écoute, là, on est rendu à la moitié. Donc, puis je trouve ça le fun parce que c'est des projets comme toi, comme les projets de Rétro Nouveau, le projet de mon ancien boss de Musique Plus, là, Denis, qui fait maintenant Radio Talbot, qui donne la voix, une vitrine à des sujets qui sont très peu traités dans les médias dits traditionnels.
C'est vrai.
Ou s'ils sont traités, ils sont tout le temps traités qu'un un petit rictus. Hein? Mais là, on parle de plein de trucs aujourd'hui.
Même si c'est sans rictus, c'est limité.
C'est très limité.
On a 8 minutes avec une pause publicitaire. Après ça, il faut mettre du boulet.
Oui, c'est ça, exactement. Mais écoute,
c'est normal.
Que ça existe.
C'est
normal. Je comprends les limitations. Mais
ça coûte cher faire de la radio. C'est normal qu'il y ait des publicités. Ouais. C'est normal qu'il y ait de la musique commerciale. C'est normal.
Mais pas de podcast, par exemple. Ça coûte rien.
Mais c'est ça l'affaire. C'est ça la beauté du podcast. C'est juste ça coûte à rien. Personne n'en a pas de publicité. Là, Là, on quémande pour un beau projet auprès de la foule. Ça leur coûterait, c'est du divertissement. Ça, c'est quoi donner 5$, 20$, 40$?
On a 454 shows d'existence en ce moment.
Oui.
Au total, là. Plus nos spéciaux de Noël, plus les spéciaux qu'on a fait au Comic-Con, qu'on a fait à Space, qu'on a fait à Fantasia au fil des années. Donc, voilà.
Ça, c'est sans compter tout ce qui pourrait être créé dans cette nouvel univers.
Tout compris, Simon.
Puis là, est-ce que tu penses, parce que là, un studio à 16 000 pour une seule émission, c'est quand même, si tu veux faire plusieurs show puis grossir. Toi, est-ce que tu mijotes l'idée d'inviter d'autres émissions
à participer
au studio?
Je suis pas fermé à l'idée. Moi, je suis un fan
de... C'est plus de gérance, là?
Ouais, mais quand même. Moi, je suis un fan de Smodcast. Je suis un fan de Nerdist, où ils ont une chaîne avec plusieurs émissions différentes disponibles sur leur propre plateforme. Fait que je suis pas fermé à l'idée. C'est sûr que pour l'instant, on veut créer le contenu des Mystérieux. Le podcast va rester. Après, on va faire des déclinaisons, ce qu'on appelle des spin-offs en anglais, de différents produits. Peut-être des émissions dédiées aux jeux vidéo ou autre. Moi, ça fait des années que je pousse Simon Chenier, que tu connais bien, qui est nos amis, à faire son propre show sur justement le nanar. Donc, je suis pas fermé à l'idée, mais pour l'instant, on va mettre en place la structure, puis on verra. Moi, tu le sais comment je fonctionne. Je vais par étapes. Je fais des choses.
Ça sert à rien de se pitcher non plus. Là.
Mais ça fonctionne. Quand ça fonctionne, après, je passe à une autre étape.
Ouais, ça sert à rien de se pitcher puis de faire tout vouloir faire en même temps. Tu vas juste frapper un mur.
Exact.
Puis.
Je vais me brûler ou. Bon,
non, c'est ça. Parce qu'on sait ce que c'est souvent quand on a un projet comme ça, puis on va se le dire, celui-là, c'est pas. Ah, j'espère que je vais pas me... Si je me trompe, tu
vas-y,
me le
vas-y.
Dis. Mais on va se le dire. C'est pas tant le projet des Mystérieux Étonnants dans son essence, c'est le projet de Benoît Mercier qui travaille fort là-dessus depuis des années.
Non.
Là, l'équipe qui est autour, puis elle va t'épauler là-dedans. Tout le monde va mettre sa part au final. Mais il reste que c'est ton projet.
C'est pour ça que je le prends pas juste pour moi. Parce que même si je suis l'instigateur du projet, comme tu le dis, chacun contribue à sa manière. Fait qu'au final, comment est-ce que tu veux départir ce que moi je fais de la contribution des autres. Je pense pas que c'est possible.
La somme de nos amitiés, d'ailleurs.
Donc, je pointe dans la direction. Oui, exactement.
Ça commence avec ton projet.
Oui, oui.
Puis, t'es sûr que t'as besoin d'aide. Il n'y a rien que tu peux faire tout seul dans la vie. Là. Fait que là, l'équipe se forme. Ça devient un projet de groupe.
Je suis l'instigateur, mais les gars me back et m'aident de différentes façons, comme l'illustration justement qu'on vend. Ben, ça, c'est Jake qui l'a fait. Il a pris du temps pour ça. Chacun donne à sa manière. Gauthier qui m'a aidé aussi pour le texte, les liens bancaires. Moi, les maudits liens bancaires avec le système, je deviens fou.
Est-ce qu'on sait où sera situé le studio?
Oui, ça va être au Studio Lunac, qui est une maison d'édition qui regroupe aussi des artistes. Moi, je loue un local dans le local depuis très longtemps.
Okay.
Donc, c'est un espace. Et cet espace-là, maintenant, est réservé. La structure du studio est déjà mise, donc la charpente est là.
Okay.
Donc, c'est sûr que ça va se passer. Il n'y a pas question que moi, je recule. On le voit dans la vidéo de présentation. Donc, éventuellement, on va juste peaufiner ça, rendre ça accessible et utile. Facile aussi. Moi, je n'aime pas me compliquer mes installations. Fait qu'on a beaucoup de choses à faire, mais justement, tout bien entouré que ça va se faire, c'est certain.
Bon, on vous invite à donner généreusement pour le projet. C'est un maudit beau projet qui s'en vient. Merci, Benoît, d'être venu.
Merci.
Vous invite, si vous ne les connaissez pas déjà, qu'est-ce que vous faites? On vous invite à les découvrir au www.lesmystérieuxétonnants.com.
Pas de lait, mystérieuxétonnants.com.
Oh, excuse-moi, mystérieuxétonnants.com. C'est diffusé pour l'instant, du moins.
Oui.
Chaque lundi, à chaque point CA, en direct, c'est à 17h30, ensuite disponible en téléchargement.
Ouais.
Merci beaucoup. Là, on va prendre un petite pause musicale avec une vieille tune du groupe L'Infonie, projet qui avait été lancé avec Raoul Duguay. On va écouter la très étrange chanson « J'ai perdu 15 cents dans le nez froid d'un ange bronzé ». Et on vous revient tout de suite après aux oubliettes sur choc.ca. Alors, de retour aux oubliettes avec nos invités. On a débuté l'émission avec Benoît Mercier. Là, on va parler avec Olivier Lefébure. Est-ce que je me trompe? T'es chargé de projet à Mediafilm? Est-ce que c'est ça?
C'est mon titre, effectivement.
Ah, bon.
Un beau titre.
D'abord, merci d'être venu, Olivier. Je suis vraiment content de te recevoir à l'émission parce que ton projet à toi, je l'aime beaucoup. Il me fait beaucoup de bien. Puis je trouve qu'une fois par année, c'est pas assez.
C'est ce qu'on nous dit souvent, mais une fois par année, c'est largement assez pour nous, parce que c'est du travail à organiser.
Ben, de toute façon, on va se le dire, si ce serait chaque semaine, on se fatiguerait.
On se fatiguerait, puis ça aurait pas d'intérêt.
Non, c'est ça.
La carte pleurerait aussi, je pense. La carte de crédit serait...
carte de crédit, certains pleurerait, effectivement.
Donc, de quel projet parle-t-on? On vous en a parlé dans les précédentes semaines. On veut parler du Ciné-Bazar qui s'en vient ce samedi. Ça, c'est... Bon, hein? Olivier, c'est quoi le Ciné-Bazar?
Le Ciné-Bazar. On a trouvé une formule. On a dit que c'était une foire pour les mordus de cinéma. Et c'est un grand rassemblement. Au tout départ, c'était un vide-garage. Au tout départ, quand on l'a démarré, l'objectif, c'était de faire de la place sur nos tablettes. Et puis, des collectionneurs, des fous de cinéma sont venus se greffer. Et ça rejoint un petit peu le cas de Benoît, où on a commencé, nous, tout petits. Puis lui, il veut commencer petit, maîtriser ça et puis le grossir. Ben, nous, ça a été ça. Il y a 9 ans, quand on l'a commencé... c'était pour faire de la place dans nos locaux. Et puis, on a créé ce rassemblement de collectionneurs, de cinéphiles. Et d'année en année, ça a grossi. Là, cette année, c'est la 9e édition. Et on va avoir... J'ai une centaine de tables d'exposants. J'ai 60... En gros, une soixantaine d'exposants différents. Et on trouve de tout au Ciné-Bazar.
Ben, c'est ça que j'aime. C'est la diversité, en fait.
Alors, cette année, je vais avoir un exposant qui va avoir beaucoup d'affiches d'horreur. Je vais avoir
The Poster Man, Danny, on le connaît.
Voilà, j'ai Danny qui va venir avec ses affiches. J'ai un autre vendeur d'affiches beaucoup plus classique, des affiches québécoises. C'est Pete du magasin au 33 Tours.
33 Tours, on adore, on salue.
Mais on va trouver aussi des trames sonores, des DVD, des VHS, on va trouver du matériel, des livres, des photos. J'ai Suzanne et Robert qui sont des collectionneurs, eux, beaucoup plus de photos de vedettes et de vieilles revues de cinéma. Donc, si jamais vous avez un ciné-miroir de 1932 qui vous manque, peut-être que vous le trouverez à la table de Robert. On a aussi, j'ai un collectionneur fou de vieux appareils. Ça fait la 3e année qu'il va venir, François Lemay. Là, il va nous exposer des appareils consacrés sur le 3D.
Ah ouais.
Donc, toutes les origines du 3D. Donc, c'est vraiment, lui, un collectionneur fou. Et donc, ça fait depuis... la première édition, c'était en 2008. Là, on est à... 8-9 ans plus tard, on est à la 9e édition, et d'année en année, ça grossit. Et ce qui est bien, c'est que, effectivement, comme tu l'as dit, on trouve de tout. Au tout départ, on trouvait beaucoup plus, c'était des DVD et des VHS pas chers que les gens venaient chercher. Puis tranquillement, on est un certain nombre de collectionneurs et de professionnels sont venus se greffer à l'édition. Ce qui fait que, par exemple, cette année, j'ai 4 distributeurs qui sont là.
C'est vrai?
J'ai K-Film, les films du 3 mars, Fun Film et AZ Film.
C'est pas rien, là.
J'ai 4 revues professionnelles. J'ai Cinébule, 24 images, la revue Cinéma et Eclipse. C'est Daniel Decheberry qui aussi est lui-même distributeur. Donc c'est ça, on fédère autour de nous un certain nombre de passionnés, de mordus de cinéma. C'est d'abord ces gens-là qui viennent.
C'est quoi l'item le plus inusité que vous avez eu au cours des 9 ans? Y a-t-il quelque chose que vous avez fait, oh mon Dieu, ça existe pour vrai, on a ça ici?
Ah, moi j'ai une petite idée, mais je vais entendre la réponse d'Olivier d'abord.
L'année dernière, il y a un exposant qui est venu avec un projecteur 35 mm qui pesait 1 tonne qui voulait le vendre. Bon, il l'a pas vendu, il est reparti avec.
Bonne chance dans les marches.
Ouais, c'était épouvantable. Mais il y a eu ça, par exemple. Il y a mon exposant donc avec ses vieux appareils. Je sais pas toi, Simon, à quoi tu pensais.
Moi, j'ai un souvenir, il y a, je crois... que ça fait 3 ans, il y a un exposant qui était venu avec des affiches les affiches peintes à la main
qui venaient d'Afrique.
Oui, c'est ça.
Et il revient cette année. C'est Bruno Tanguay.
Il va être là cette année?
Oui, il va être là cette année.
Ça, faut pas manquer. Ça, vous allez capoter, cher ami collectionneur. C'est magnifique.
Il n'est pas venu l'année dernière. Il est venu il y a 2 ans. Puis il était venu auparavant, où on était encore dans l'ancien local. Ce sont des grandes affiches de films, des fois africains, mais vraiment des affiches peintes à la main.
Wow. Ouais, c'était vraiment. Eux autres, ils reçoivent pas nécessairement les affiches diffusées
dans
ils
vont à l'unité, là.
Oui, c'est très limité. C'est sur une espèce de papier brun très épais, comme cartonné. Ah, ouais. Puis c'est peint à la main. Fait que des fois, c'est plus réussi que d'autres. Ouais. C'est pas donné, mais c'est tellement. Ça, c'est des vraies pièces de collection.
Unique. Oui, ça, c'est unique
en son genre.
Mais on a absolument de tout. Et c'est ça qui fait, je dirais, la force du Ciné Bazar, c'est que. Aussi bien le, comme je dis toujours, monsieur, madame, tout le monde qui veut acheter des DVD pas chers va en trouver, que le collectionneur qui recherche soit un appareil, soit une photo. Et ce qui est bien, c'est que les exposants se connaissent tous plus ou moins et il y a donc un certain nombre de contacts qui se sont créés parce que les gens aussi, en cours d'année, restent en contact en disant « Ah, ben comme je prends l'exemple de Suzanne Lessard qui, elle, se spécialise dans les photos. » Ben, les gens peuvent aller la voir puis lui dire « Ah ben, je cherche telle vedette. Si jamais je vous laisse mes coordonnées, si vous en trouvez en cours d'année, je vais reprendre contact avec vous. »
Il y a comme une pareille économie qui s'est faite.
Oui. C'est petite économie,
mais quand même, ouais.
Non, c'est...
Mais même entre les gens qui se connaissent déjà, disons, sur le web, moi, il y a beaucoup de gens, d'autres collectionneurs, d'autres des exposants que je connais du web, que le Ciné Bazar, c'est une des seules places dans l'année où ce que je les rencontre, parce que c'est pas nécessairement des gens qui vont aller nécessairement à Fantasia ou au Comic-Con ou tout ça. Donc, le Ciné Bazar, comme c'est des grands collectionneurs, c'est souvent le point de ralliement annuel où je les rencontre.
Oui, et puis la force du Ciné Bazar, c'est que c'est une convention uniquement de gens de cinéma. Ouais. Parce que la plupart de ceux qui en font, il y en a qui font les collections de jouets ou les différentes collections, mais ils peuvent être à côté d'un gars qui vend des cartes de baseball ou des t-shirts. Donc, ils sont noyés dans la masse. Donc, il y a peut-être... un visiteur sur 100 qui va être intéressé par leur table. Que là, sur le principe, on espère accueillir entre 1500 et 2000 personnes. Ce sont que des gens qui aiment le cinéma, qui viennent pour acheter quelque chose en cinéma. Donc, sur toutes les tables, ils sont susceptibles de trouver leur intérêt.
Ça me fait penser un peu comme tu disais, le Comic-Con, mais la section exposant, c'est juste du truc de cinéma. C'est juste des choses par rapport au cinéma.
Tout à fait.
Oui. Fait que tu vas trouver ton compte, il y a des choses que tu sais même pas que tu veux.
Ça, c'est mon...
Ah oui, un verre de Ghostbusters.
Non, mais ça, c'est mon cas à chaque année. À chaque fois, je vais là, j'ai mon budget, j'ai ma limite, puis il y a toujours des affaires que je savais pas que je voulais, que je découvre. Hey, je veux ramener ça chez moi.
Simon, des mystérieux, a trouvé des bobines, je sais pas c'était quelle, excusez-moi, je connais pas les millimètres, toutes ces choses-là, mais des vidéos de famille des années 70.
Oui, c'est vrai.
Des trucs là, uniques, là, c'est vraiment spécial.
Ben, on a un exposant, Xavier, lui, il amène toujours beaucoup de matériel. Il va avoir des pellicules 16 mm ou du Super 8, puis des projecteurs. Bon. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment la variété. Il n'y a pas que c'est pas sentable uniquement avec de la VHS et du DVD.
Ouais, c'est ça.
Si on recherche des affiches, il y en a. Si on recherche des jeux, il y en a. Si on recherche des photos, il y en a.
Mais moi, ce que je veux savoir, Olivier, là, c'est sûr, on a parlé du Ciné Bazar. Ça, tout ça, c'est au profit de Cinécole, qui est produit par Mediafilm. Alors, tout d'abord, j'aimerais savoir, c'est quoi Mediafilm pour ceux qui ne connaissent pas?
Ben, Mediafilm, c'est quand je fais des présentations aux écoles, Mediafilm, on est une agence de presse. On est surtout une grosse gang de cinéphiles et on a un site Internet. Et notre principal travail consiste à aller voir les films en projection de presse, avant tout le monde, d'écrire des résumés, d'écrire des appréciations critiques. Et depuis maintenant presque 50 ans, les codes de 1 à 7 qu'on retrouve dans les téléhoraires, le petit chiffre là qu'on voit entre parenthèses, c'est Mediafilm qui l'a fait depuis 50 ans.
Petit chiffre qui est d'ailleurs associé à la culture du nanar.
Entre autres, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, puisque 1, c'est le chef-d'œuvre. Puis 7, c'est le film dit minable, donc le nanar par excellence.
J'étais fasciné des TV horaires quand j'étais jeune, puis je comprenais pas la cote. Je pensais que c'était le contraire.
Je dois être déçu.
Oui, exact.
Le 1, c'est le chef-d'œuvre, mais effectivement, il y a toujours des gens qui se disent bah, ben oui, parce qu'on est habitué avec les étoiles. Ouais. Plus il y a d'étoiles, plus c'est meilleur est le film. Là, c'est l'inverse. Plus le chiffre est petit, meilleur est le film. Mm-hmm. Et donc, c'est ça. Mediafilm, c'est une agence de presse. On couvre on essaye de couvrir tous les films qui sortent en salle. Et donc, on écrit des résumés, des appréciations qui sont diffusées dans la plupart des journaux, à la presse, Le Devoir, plein de médias. On les retrouve sur Illico, etc. Et à Mediafilm, justement, moi, j'ai créé Cinécole. On a parlé... Le Ciné-Bazar est né, en fait, il y a 8 ans. La première édition, c'est en 2008. Puis, la première édition, ça devait être juste une fois. Et dès le premier jour, à 9h30, un des exposants m'a pointé du doigt en me disant « L'année prochaine, on recommence. » Puis là, on s'est dit, le problème, c'est que c'est bien beau.
Mais fais-le, ils viendront.
Oui. Parce que ce qu'on revend, c'est, nous, entre autres, c'est entre autres du matériel que les distributeurs nous donnent pour faire la promotion. On s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire de cet argent-là qu'on récupère? On ne va pas le garder pour se payer des salaires ou pour se payer de la bière. Ça aurait été bien, mais on
pour
a décidé
de... des nouveaux DVD à mettre.
Oui, c'est ça. Donc, moi, je suis arrivé avec cette idée de Cinécole, c'est-à-dire d'organiser des projections scolaires pour les écoles, pour les jeunes de niveau scolaire, de niveau secondaire, mais c'est gratuit. Donc, tout l'argent qu'on récupère à Cinécole, donc, c'est... Il y a un droit d'entrée de 3$, c'est la vente des tables, puis la vente du matériel. L'argent qu'on récupère, moi, je l'utilise pour organiser des projections. Maintenant, alors ça a commencé là aussi tout modeste. En première édition, c'est en 2009, j'ai fait un film. J'étais content, j'ai tout payé, ça m'a coûté une fortune. Mais petit à petit, ça a grossi. Et cette année, pour l'année scolaire 2015-2016, je vais faire 5000 places gratuites pour des écoles secondaires.
Wow.
C'est génial.
Et donc, je présente essentiellement des films québécois.
Oui, ça je me souviens qu'on était jeunes, on faisait ça à l'école, mais maintenant, c'est plus vraiment un cas, à part pour ce que vous organisez, mais les films québécois, il n'y en a plus.
Il n'y en a plus, c'est pour ça que je trouve que la Cinécole, c'est un beau projet, parce que ça fait survivre ce milieu-là au niveau secondaire. T'sais.
Surtout des films québécois, parce que si on est porté à aller vers l'américain.
Ben c'est ça. Nous, notre objectif, ça a d'abord été de dire, on va présenter des films de qualité. Premier critère. Ensuite, bon, il s'est trouvé qu'on est appuyé maintenant par plusieurs institutions, donc on fait la promotion du cinéma québécois. Mmh. Cette année, j'ai présenté Paul à Québec, Gibor s'en va en guerre, Le Profil Amina. Je vais présenter là, dans quelques jours Chasse-Galerie. J'ai présenté Henri. Donc c'est vraiment des films québécois. En décembre, je suis très fier de moi, ça, j'ai présenté à la Cinémathèque Les Ordres de Michel Brault.
Ah ouais.
Donc, c'est vraiment pour faire la promotion du cinéma de québécois de qualité. Et les fonds de Cinécole servent à ça.
Génial. C'est une super de belle organisation. C'est vraiment
une
belle
idée. C'est une initiative
importante. Ouais. Ouais, c'est vraiment un beau move. Merci, Mediafilm. Merci, Olivier. Merci pour le Ciné-Bazar, pour tous ces beaux projets-là.
Je vais en profiter pour faire, moi aussi, ma petite plug.
Vas-y.
À tous ceux qui vont arriver au Ciné-Bazar, à l'entrée, on va leur remettre un petit macaron avec la cote 1 qu'ils pourront accrocher. Et on va... Bah oui, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on met d'abord comme macaron? Puis on s'est dit, bon, on va commencer avec la cote 1 quand même. Et on a fait également une série d'aimants pour mettre sur, comme je dis toujours, les frigos. Comme ça, ça va donner un peu plus de côté intellectuel à mon frigo.
Est-ce qu'il y a un nombre d'unités total pour les macarons? Là, genre, les 100 premiers?
Non, les macarons, il y en a 1500.
Oh, okay. Oh, OK.
Il y en a 1500. Donc, et puis, on a fait des aimants que là, on va vendre la série des 7 aimants avec les 7 cotes, dont la fameuse cote 7.
Le film de ce soir. Qu'est-ce qu'on regarde, chérie, sur le frigo ce soir?
Voilà, c'est ça.
Mais la vraie question, c'est quoi ton budget au Ciné-Bazar?
Ah oui, toi, ça va être intense.
Mais là, OK, je dois
l'admettre. Est-ce que tu manges dans les semaines qui suivent?
J'avoue que cette année, je suis un peu plus serré. Je vais me tenir tranquille. En plus, je dois déjà un peu d'argent à The Poster Man, Danny Drouin. Cette année, je vais y aller mollo. Mais les deux années précédentes, je me limitais à 200 et je sortais finalement avec des dépenses de 230.
Je pense que je t'ai déjà vu sortir de là en me disant, je suis cave, j'ai acheté. Ouais. J'ai acheté. T'étais comme en maudit contre toi, mais t'avais un gros sourire dans
Oh oui, j'en reviens avec des sacs pleins, puis je suis comme « Yeah! »
Généralement,
mais ouais, ça me
les
coûte
visiteurs,
un petit
c'est bras. Ça. Et les exposants aussi.
Oui, j'imagine.
Moi, je me rappellerai toujours, une fois, je suis allé voir un exposant, puis je dis « Ben, ça va? »« Ah oh non, ça va pas. J'ai pas le temps d'aller acheter aux tables des autres. » « Mais c'est pas grave, t'es là pour vendre. »« Non, je suis là pour acheter aussi, mais j'ai pas le temps, j'ai trop de monde à ma table.
» Ah non, moi, j'ai été exposant, d'ailleurs, l'année dernière, parce que j'avais un surplus de VHS et je voulais vendre à très bas prix. Je pense que c'était 1 à 3 $, $10 chacun, là. Puis au final, moi, ça m'a coûté zéro. Je mettais même un budget, mais finalement, toute la vente que j'ai faite, je l'ai redépensée. Fait que ma journée m'a coûté zéro, mais je suis revenu les poches pleines de nouveaux cadeaux, là. Ben, merci, Olivier. Donc,
c'est moi qui te remercie.
Je vous invite à découvrir le Ciné-Bazar. Ça va être ce samedi 2 avril de 9h à 16h. C'est au centre du plateau, au 2275 boulevard Saint-Joseph-Est à Montréal. Ça, c'est seulement $3 l'entrée et comme on a dit, tous les fonds vont au projet Cinécole, 9e édition cette année. Manquez pas ça parce que vous allez vous en mordre les lèvres, c'est garanti. Sur ce, on s'en va prendre une petite pause musicale et on vous revient tout de suite après aux oubliettes. On va aller écouter le Fat Larry's Band qui nous chante Video.
She had a ribbon in her hair and a camera on her arm. We made a little love with the television on. I tried to turn it off, but guess what I saw? Girl said, why don't you try them more? I pulled down my pants and in the corner of the wall was a camera going berserk, cause it liked what it saw. Watching staring eyes at me. Video is what you see. Privacy is so untrue when video is watching you.
Pendant la pause musicale, il y a Benoît avec un petit smirk qui me regarde et il me dit « Hey, Simon Orto, j'ai quelque chose pour toi. »
Ouais, parce que je voulais voler la vedette à Simon Laperrière comme toujours, c'est pour ça. Mais juste pour remercier un de tes auditeurs, Hugues Dubois, qui a fait don assez volumineux, assez considérable pendant la pause musicale.
Ah, ben, on merci le remercie Hugo beaucoup. Dubois.
Oui.
Hey, on l'applaudit. Yep.
Donc, on est rendu à 52% grâce à lui.
Ah, nice! Wow. Grâce à Hugo, ben merci beaucoup pour ton investissement. Sur ça, ben on va se lancer dans un petit sujet. Puis, question de se mettre dans le beat, j'ai goût d'entendre l'extrait d'un film en particulier qui, moi, un film qui me fascine pour ses dialogues. Puis, on va justement en entendre un extrait de Eau Sauvage, Savage Water, qui nous parle. En fait, c'est ça, ils vont nous dire, c'est quoi, en fait, le karma?
Je suppose qu'en faisant ce que vous avez fait, vous n'avez fait que précipiter la chose même qui vous a poussé à le faire. Nous devons tous vivre notre propre karma. Karma? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc dont vous, les hippies, vous parlez tous? Qu'est-ce que c'est que le karma? Eh bien, Doc, c'est une sacrée question. Le mot en hindou veut probablement dire une chose, mais parmi les hippies américains et les autostoppeurs de toutes sortes... Cela veut dire... Eh bien, disons que vous vous êtes trouvé à la porte de chez vous. Alors, vous allez à votre boîte aux lettres prendre la clé. Quand vous y arrivez, vous vous apercevez que votre clé n'est pas là. Vous ne l'avez pas remise la dernière fois. Alors, vous tapez sur la boîte aux lettres, ce qui fait sortir les chiens. Et un chien vient vers vous et commence à aboyer. Alors, vous frappez le chien et le chien s'en va en hurlant et passe devant la maison du voisin. Et les voisins appellent la police. Et quand la police arrive pour enquêter, elle vous arrête pour avoir essayé de rentrer chez vous dans votre propre maison. C'est ça, le karma.
Bon, j'espère que tout le monde a compris. C'est ça, le karma.
Ouais. Ouais. Wow.
Je suis content, j'ai pas de chien.
Donc, on reçoit entre autres aujourd'hui, comme je vous l'ai dit précédemment, Simon Laperrière, qu'on a eu tout d'abord pour parler de Fantasia dans le passé. Mais là, aujourd'hui, il est ici parce que ils ont publié un livre aux éditions du Murmure, L'éloge de la nanarophilie, un essai coécrit avec Antonio Dominguez Leva. Et c'est donc un sujet qu'on pouvait pas éviter ici aux oubliettes, même si on un peu en retard, si je me trompe pas, c'est sorti en décembre.
Oui.
En décembre. Donc, moi, ce que je veux savoir, c'est d'où est venue l'idée. Pourquoi un livre sur la nanarophilie?
C'est une bonne question, parce que c'est un sujet assez inusité que de s'intéresser au mauvais cinéma. D'abord, il y a des livres qui existent déjà sur le sujet. À peu près en même temps que la sortie de notre livre, il y a Nanarland qui a sorti un premier livre qui recense les pires films de l'histoire du cinéma.
On salue Dominique au passage.
Nous, ce qui nous intéressait, par contre, c'était d'aborder la nanarophilie à titre de réception, donc comme phénomène qui se produit dans l'esprit du spectateur durant une projection, durant un visionnement. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un film va lui apparaître drôle malgré lui? Qu'est-ce qui va permettre au spectateur d'adopter un mode de lecture au second degré? Puisque selon nous, ça dépend de plusieurs facteurs qu'on a décidé de théoriser, puisque selon nous, il s'agissait d'une perspective intéressante et d'une perspective qui nous permet de mieux comprendre qu'est-ce que c'est que l'expérience de voir un film en général. C'est aussi une façon pour nous de remettre en question, si l'on veut, l'objectivité du bon goût au cinéma, l'objectivité des chefs-d'œuvre, de démontrer qu'on peut rire de Citizen Kane, tout comme, inversement, on peut adorer sincèrement Plan 9 from Outer Space. L'origine du projet, à la base, je participais à un séminaire à l'Université de Montréal qui portait sur la cinéphilie. Et il fallait remettre un travail final sur une forme de cinéphilie de notre choix. Comme j'ai toujours été intéressé par les sujets inusités, parce que c'est ma curiosité intellectuelle qui me mène à parler de sujets que d'autres personnes n'abordent pas, je me suis dit, ben, je pourrais me lancer dans la nanarophilie. Nanarophilie, donc, à titre de point de vue, mais aussi l'intégrer dans une histoire culturelle. Donc, se poser la question, quelle est l'histoire de la nanarophilie comme culture? Donc, les fanzines, jusqu'à aujourd'hui, avec le web et des vlogueurs comme le Nostalgia Critic, Tu sais, le Angry Video Game Nerd. Ouais. Et un peu la démarginalisation, gros mot Scrabble, de la nanorophilie dans les médias de masse, puisqu'on le sait maintenant.
Ah, de plus en plus,
c'est,
hein.
C'est très à la mode avec ce que faisait de Louis-José Hood avec Dollar à Clip. C'est une façon pour la nanorophilie de quitter le salon du cinéphile pour désormais être phénomène très, très, très à la mode.
Et le faire découvrir des gens qui n'auraient jamais pensé qu'on pourrait aimer quelque chose de mauvais au final aussi.
Oui, parce que je crois que la nanarophilie, c'est d'abord et avant tout une histoire d'amour.
Tout à fait.
Ça découle d'un amour du cinéma, d'un amour des grands films, et selon moi, la lecture nanarophile se fait à partir de comparaisons. C'est une lecture comparative, dans la mesure où le spectateur sait reconnaître ce qui fait un bon film. Il a des idées préconçues, et là, je dis pas ça péjorativement, de qu'est-ce que c'est un bon acteur, qu'est-ce que c'est un bon scénario, qu'est-ce que c'est une bonne mise en scène, et dans sa croisade à travers les films, va tomber de temps à autre devant des objets qui ne répondent pas à ces critères.
Et qui sont souvent, d'ailleurs, des espèces de pastiches de grands films, les courants des films de Rambo, de gars,
les clones,
meilleurs au Vietnam, les sous Terminator, fait que devant une espèce de pâle copie de quelque chose qui a vraiment marqué l'imaginaire, on est capable de détecter tout de suite qu'est-ce qui marche pas, puis ça déclenche entre autres le rire.
Ben c'est quelque chose qu'on évoque justement dans l'essai, mm-hmm. que les classiques nanars, et j'aime pas vraiment ce terme-là, puisque selon moi, c'est encore une fois, c'est quelque chose qui est immensément subjectif,
ouais,
mais
personnel,
bon,
hein.
Pour s'y retrouver, on n'a pas le choix d'avoir certains...
Moi, j'ai ma sous-catégorie que personne aime. Là.
Oui, c'est
moi, j'aime beaucoup les nanars de films québécois qui se la créent.
Oui.
C'est comme, genre le cas Roberge. Tout le monde, comme tout le monde fait semblant que c'était une bonne idée tout ce temps-là, mais finalement, c'est
non,
c'est...
Non.
Mais donc, effectivement, les classiques du nanar, bien souvent, ce sont des films qui vont essayer de capitaliser sur le succès de gros blockbusters, mm-hmm. comme par exemple les Italiens. Simon, tu dois en parler constamment aux oubliettes. Des dieux des copies de Jaws, des copies de films d'aventure, de péplum.
Ils se sont réappropriés le western, d'ailleurs.
Oui, ben c'est ça. Ils ont... Dans les années 60, ça a été le règne des westerns italiens. Puis avant, ça a été tous les péplums. Et c'est vrai que ça a été une grosse partie de leur cinéma pendant très, très longtemps.
Ouais.
Mais ce qui est amusant, en fait, d'un nanar, ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui est très mauvais, mais qui est finalement beaucoup plus agréable à voir qu'un film ordinaire.
Oui.
Parce qu'un film moyen, on va s'ennuyer. Mm-hmm. On va se dire, c'est pas terrible, c'est bon. Mais un nanar, c'est tellement mauvais qu'on va en rire et on va passer un bon moment.
Exactement, il y a une différence fondamentale entre le mauvais film et le nanar. Le mauvais film, on le rejette.
Oui.
Bien souvent, après une demi-heure, on en a assez, on l'arrête pour faire autre chose.
Genre un mauvais Fast and the Furious, on va pas l'écouter nécessairement pour avoir du plaisir. Là,
oui.
Au niveau du point de vue nanarophilique.
Tout à fait. Comment
tu dis ça, nanarophilique?
Nanarophilique. Ouais. Alors que le nanar, on veut le voir jusqu'au bout parce que justement, on veut voir jusqu'où
ils vont aller.
Fascination. De savoir jusqu'où ils vont pousser l'enveloppe. Il y a des scènes des fois qui font absolument aucun... Moi, j'aime beaucoup Cible primaire avec Frank Stallone, le frère de l'autre. D'ailleurs, sa prochaine c'est marqué Stallone.
Le frère de l'autre.
Le frère de l'autre. Et il y a des séquences qui sont entrecoupées dans le montage où c'est du stock footage, donc des séquences prises dont ça a été enregistré auparavant. Mais ça n'a aucun lien avec l'action. Mm. C'est comme si en ce moment on avait une conversation, puis là il y aurait un hangar de missiles qui s'ouvre, puis il lance un missile. C'est complètement disjoncté, ça ne fait pas de sens, mais c'est fascinant. Tu veux savoir où ils vont aller?
Ben actuellement, je pense qu'il y a énormément de nanarophiles qui se ruent en salle pour voir Batman contre Superman. qui est un méga nanar qui a coûté
des millions
de dollars.
Mais c'est un nanar ou un navet? Parce que c'est un peu ça vous décriviez justement précédemment. Les films moyens, on va juste les trouver plates.
C'est quoi
puis
les éléments?
Il y a les nanars.
C'est quoi la recette?
Ça dépend des points de vue. Encore une fois,
c'est très subjectif.
J'ai vu Batman contre Superman avec des amis et on a ri aux éclats, mais en reconnaissant évidemment que le film est une daube. Probablement que pour d'autres spectateurs, c'était un film ennuyeux qui mériterait pas un culte. Moi, je pense que fondamentalement, ce qui fait du nanar un nanar, c'est l'étonnement. C'est être face à un film où on va se poser la fameuse question du Angry Video Game Nerd. What were they thinking?
Ouais, qu'est-ce qu'ils ont pensé?
Comment, dans toute l'histoire d'un tournage, avec tout ce qui peut arriver, quelqu'un s'est dit que dans, Nudity Required, ce serait très drôle que dans une scène où il y a un paquet de baigneuses dans une piscine, qu'une des figurantes qui tient un énorme piton le mette dans l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ben, c'est dans le film?
Moi,
pourquoi
souvent,
ils ont gardé ça?
C'était souvent la question que je me posais en regardant ces mauvais films-là. C'est, attends, là, il y était plusieurs autour de la table, puis on dit, oui, on signe, on le fait, on le sait, c'est une bonne idée. Ouais. Qui a trouvé que c'était une bonne idée? Qu'est-ce que ça sort? C'est souvent ça la question.
Je sais pas si vous avez soulevé cet élément-là aussi, mais moi, ce que j'ai remarqué pour avoir écouté partie de 2.org pendant plusieurs années, il y a une dose d'authenticité, d'authenticité dans les nanars qu'on retrouve pas nécessairement dans les productions Blockbuster et compagnie. Tu sais ce qu'ils voulaient faire. Le geste est... Il est louangeable. Oui. Ils ont essayé quelque chose.
Ils ont essayé fort.
Mais ça marche juste pas. Mais là-dedans, tu peux pas les condamner. Tu peux rire d'eux. T'as pas le choix. C'est absolument risible. Mais je vais jamais condamner, mettons, Neil Breen, qui fait des films absolument impossibles, mais qui sont tellement divertissants à sa façon, là, à sa manière.
Ben, c'est ça. Il y a une différence entre le vrai moi, ce que j'appelle le vrai nanar et le nanar volontaire, parce que c'est à la mode. Si on regarde les films de requins à cette heure.
Sur sci-fi.
C'est ça.
Oui, ça, c'est les nanars usés. Alors qu'ils peuvent éventuellement devenir des nanars, parce que le nanar pourrait échouer à être un nanar. Ouais. Donc là, on tombe dans une sorte de lecture. On va faire comme Deadpool. On brise le quatrième mur alors qu'on l'a déjà fait avant. On est dans le 16e mur. Oui, je suis d'accord avec toi, Benoît, que le vrai nanar, à la base, il est sincère. Mm-hmm. Neil Breen, qui est un parfait exemple d'un cinéaste qui ferait des néo-nanars, qui là, ce sont des films qu'on peut même pas comparer à d'autres tellement ils sortent de l'ordinaire. On a l'impression de rentrer dans un esprit malade, et on se retrouve avec des projets qui sont des projets narcissiques qui font absolument aucun sens, mais n'en demeure pas moins qu'il est sincère.
Mais c'est hyper fascinant dans le cas de Neil Breen. Tu regardes ce qu'il fait, puis t'as l'impression que par l'entremise de ses œuvres, tout ce qu'il est en train de faire, c'est se glorifier lui-même. Il est toujours le personnage principal, en plus d'être producteur, scénariste, réalisateur, mais son personnage est tout le temps le meilleur des meilleurs dans ce qu'il fait. Tout le monde l'aime, il y a l'affection de très jolies femmes. ça arrête jamais. Donc, non seulement ses films ne font ni queue ni tête, mais il est constamment en train, on dirait, de se rassurer.
Ah ouais,
d'adresser des espèces de carences affectives par le biais de son cinéma. Ouais.
Et en même temps, de passer des messages écologiques. Ces films, ce sont des pamphlets.
Oui, ben, absolument, oui.
Mais là, c'est sûr que...
Ils savent dès le départ qu'ils font un très mauvais film. Moi, je connais un peu mieux le cinéma français. T'as des nanars dans les années 70 et début des années 80 où c'est évident que ça va être archi mauvais, où tu as ils sont allés chercher tous les acteurs les plus mauvais. T'as Paul Prébois, t'as Alice Sapritch, t'as Michel Galabru qui vient tourner pour Un jour, t'as Darry Cole, et tu as avec des titres absolument épouvantables, et tu te dis, mais c'est évident que ils vont aller à fond dans le nanar, parce qu'ils savent qu'ils ont un budget dérisoire. Mais ça va quand même marcher.
Oui, mais c'était des films qui étaient faits pour remplir les salles. Donc, c'est les exploitants qui exigeaient d'avoir, disons, des comédies durant la période estivale. Et là, c'était, rempli 90 minutes de bobines. Et on s'en fout. Je me souviens qu'en 2007, Jean Rollin était venu à Fantasia et nous avait raconté le tournage du Lac des Morts-Vivants, qui est un film qui a fait sous pseudonyme. Ben oui. Au départ, Rollin ne devait pas être le réalisateur. C'était censé être Jess Franco qui avait disparu. Littéralement.
Ils l'ont jamais retrouvé à ce moment-là,
Ça l'a pris 3 jours pour que Rollin obtienne le scénario. Il tournait le film sans savoir ce qu'il faisait, et il savait très bien que le film allait être une catastrophe, ce qu'il est, le Lac des Morts-Vivants.
C'est une catastrophe.
C'est tout de même extraordinaire avec les zombies nazis filmés dans ce qui est vraisemblablement une piscine, les dialogues qui sont complètement ridicules.
Puisque formidable des nanars, souvent, c'est les titres.
Oui.
Parce que moi, j'en ai un en tête, c'est Le Plumard en folie. C'est un film français des milieux des années 70. Tu te dis, avec ce titre-là, dès le départ, tu sais que tu vas à fond dans la nanarophilie.
Mais on va se le dire en termes de titre original, la France pour les comédies folichonnes, vous n'avez pas votre pareil. J'ai une cassette chez moi de 4 Zizi au garde-à-vous, ou du Max Pekka, par exemple, On se calme et on boit frais à Saint-Tropez.
Oui.
Je réfère là-dessus nos auditeurs au texte de Christophe Bière dans Bleu Nuit, histoire d'une cinéphilie nocturne, qui recense toutes les comédies affligeantes françaises. La comédie affligeante. Qui théorise d'ailleurs.
Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir.
Ouais. Et il cite un titre, c'est sûr que je m'en souviendrai pas parfaitement, mais vous allez comprendre pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une femme qui va au café avec les hommes?
Oui.
C'est pas mal, ça. J'ai retrouvé
c'est
sur YouTube.
Tellement long,
le
là.
Titre prend tout l'écran.
Mais il y a une autre question, moi, qui me brûlait les lèvres.
Ben, en fait, j'avais...
Vas-y,
pensez-vous que la fascination ressemble un peu à celle d'un fail sur Internet? La fascination pour les nanars. Tu sais, les fails, c'est les espèces de vidéos où les gens se pètent la gueule.
Absolument.
Tu
c'est peux quelqu'un pas, qui s'enferme, qui tourner. S'effondre.
Là, mais tu le regardes pareil. Fait que je me demande si les nanars.
Qui fait mal.
Je me demande si les nanars, c'est un peu pas la.
Ben, moi,
la
je,
même
pense,
chose.
Je pense que ce qui répond à ta question, c'est de voir comment les nanars ont obtenu une nouvelle vie sur Internet avec, par exemple, le fameux vidéo qui est devenu viral dans le temps de le dire, la pire mort filmée de toute l'histoire du cinéma, qui, qu'on sait même pas vraiment ça vient de quel film en plus.
C'est pas clair. On l'avait trouvé un moment donné, mais tu sais, c'est un film avec un nom imprononçable ici, donc ça se fait super vite, là, mais ouais.
Mais oui, non, c'est on rit de l'échec, on rit d'une tentative. En fait, moi, parmi mes nanars préférés, il y a les films d'horreur, et ceux dont Troll 2, par exemple, c'est le meilleur exemple. Ce qu'on rit dans Troll 2, c'est que le film essaye de te faire peur.
Mm-hmm.
Et
ça marche
oui,
pas.
Ça marche
avoir,
pas, pantoute.
Ça marche jamais.
On a peur que, de voir que ça existe.
Mais on, c'est ça, on rit pas du... On rit pas du, de l'effort, on rit du résultat, au final.
C'est ça.
Ouais. En fait, on les adore, ces films-là.
Absolument.
Juste pas pour les raisons que les créateurs voudraient.
J'ai rencontré, justement, dans le cadre de Fantasia, l'acteur principal, hein, celui qui jouait le père dans Troll 2.
oui,
écoute, j'étais aussi nerveux que je rencontrais Ben Affleck ou je sais plus qui. Là,
pourtant,
très...
il est pas bon.
non, mais il était hyper sympathique.
Ouais,
c'était
ouais,
vraiment,
c'est ça.
Il y avait une fascination de le rencontrer.
Tout à fait.
Tu te demandes tout le temps, est-ce que ces gens-là savent
réel,
dans
c'est quoi
ils ont joué?
Vue, ouais.
Puis d'ailleurs, le documentaire sur Troll 2, Best Worst Movie, est génial pour ça. Là.
Il y avait eu un bel article dans Cracked dimanche dernier où, qui est une entrevue avec l'actrice qui joue la petite fille dans Manos, The Ends of Fate.
Ah ouais.
Et elle expliquait qu'à 7 ans, elle comprenait que le film, en le tournant, elle comprenait que le film allait être une catastrophe.
À 7 ans, oui.
À 7 ans, ouais.
Et moi, il y a une question que je me pose souvent. Ben, moi, je veux t'entendre là-dessus, Simon. Est-ce que l'âge d'un film peut transformer un film en avis? Parce que là, on sait, tu sais, la mode des films des années 50, les années 80, ils ont tous leur style, leurs échecs, leurs bons côtés. Qu'est-ce qui fait qu'un film... Est-ce que ça se compte? Est-ce que c'était au 10 ans, tu peux dire, oups, ce film-là, il vient de passer dans la barre des navets, là.
Je serais porté à dire que oui, c'est sûr que le rapport au temps joue beaucoup sur notre appréciation des nanars et sur la réception des films en général. C'est une question qu'on soulève dans l'essai en citant un très, très grand intellectuel qui est Butthead. Parce que dans, dans un épisode de Beavis et Butthead, il visionne un film et éducatif sur les codes de conduite. Et quand le film commence, Butthead tout de suite dit « This was made back when people were stupid ». Donc, je crois que oui, forcément, des nouveaux spectateurs vont voir Jaws, par exemple. Ils vont probablement se moquer de la qualité des effets spéciaux parce que les critères de qualité changent.
Ouais, ça évolue,
c'est normal. J'ai rencontré quelqu'un éventuellement qui avait écouté... bon, la personne était plus jeune, mais elle avait écouté Shining, puis elle avait pas aimé ça. Ben, elle avait pas d'âme non plus. Mais
elle
tu vois que...
Pas d'âme.
Avec le temps. Mais même, j'imagine que Shining, à l'époque, c'est pas un bon exemple parce que c'est pas un nanar, mais tout le côté visuel était beaucoup moins significatif qu'aujourd'hui. L'espèce de tapis orangé avec des losanges, à l'époque, faisait partie de la mode. Maintenant, c'est presque inquiétant. En fait, c'est inquiétant. Il y a des choses comme ça qui se révèlent dans les films des années 80 qui sont très nanars, qui sont encore pires aujourd'hui.
Les coupes de cheveux,
Longueuil,
les
entre
habits.
Autres.
Tu parles de Shining. Moi, je me souviens que dans un cours au cégep, Olivier, on avait éclaté de rire devant le Quai des Brumes. On avait trouvé que c'était à se tordre de rire.
Le Quai des Brumes, par moment, Pierre Brasseur est mauvais à un point, c'est épouvantable. Mais c'est vrai que quand on regarde... Faut replacer, mais quand on regarde le jeu de Pierre Brasseur... Il est ridicule. Il y a des bouts où il est absolument ridicule, où il est censé être un petit malfrat, et puis on a envie de rire. Mais bon, faut effectivement replacer le film dans son contexte, ce que nous, on essaye de faire toujours à Mediafilm, parce qu'effectivement, il y a des films qui vieillissent bien, il y en a qui vieillissent mal, puis il y a des films, on sait dès le départ que bon, c'est mauvais, et puis ça ira pas en s'améliorant avec les années.
Mais sur ça, c'est déjà la fin. Tout d'abord, j'aimerais savoir rapidement, Olivier, si t'en as un, j'aimerais l'entendre aussi. Mais Simon, Benoît, ce serait quoi vos nanars classiques, vos préférés là?
Oh boy, écoute, dans les Québécois, j'aime beaucoup le Corauberge. Je l'ai mentionné tout à l'heure. Écoute, je suis fasciné par ce film-là. Bonzaillon. Je pense qu'il est mon film québécois douteux préféré, surtout que le réalisateur sait que j'existe et me déteste. En tout cas, me détestait en 2007 parce que j'avais ri beaucoup de son film.
Ouais, ça, sinon, c'est un qui a pas pris qu'on l'aime comme
pas.
Un anard.
Il a pas compris. La cinématographie de Simon Boisvert, que Simon Chénier m'a fait découvrir.
Simon Boisvert est excellent.
Génial. Et sinon, américain, j'aime beaucoup Cible primaire, que j'ai mentionné tout à l'heure. Un film qui m'a renversé. C'est fascinant à quel point. En anglais, on dit un train wreck, là. Un accident de train au ralenti. C'est fascinant. Ouais.
Simon, toi?
Silent Night, Deadly Night 2.
Oh, ouais,
avec la performance absolument géniale d'Eric Freeman et tous les dialogues cultes qui se trouvent dans ce film qui, finalement, ne comporte que 40 minutes de scène originale puisque l'ensemble a été repris.
C'est vrai! Il raconte le premier film.
Ouais, ah, oui, et il y a une scène où ils vont au cinéma et le film qui est présenté, c'est le premier film. Oh, c'est absolument fantastique.
Il essaye plus, là, rendu là.
Sinon, Nightmare City, d'Umberto Lenzi, City of the Walking Dead, c'est quand même...
Ouais.
D'un ridicule renversant, on l'avait présenté en 35 mm
c'est vrai,
il y a quelques années à la Cinémathèque, et voir ça sur grand écran, on se rend compte que ces films-là, il faut les voir avec du public. Troll 2, évidemment, Manos, qui a eu droit à une si belle restauration de Synapse Film l'an passé, et que en soi, c'est un non-sens. Pourquoi est-ce qu'on restaurerait ça? Plus récemment, les Parisiens de Claude Lelouch.
Ah ouais, hein?
Ah, c'est quelque chose.
On a entendu parler, ouais.
C'est quelque chose. C'est irregardable, mais on ne peut pas s'empêcher de regarder autre chose que l'écran.
Et toi, Olivier, en aurais-tu un anard classique?
Il y en a deux que ma blonde m'a fait découvrir il y a longtemps, qui m'a fait empêcher de me coucher. C'était Aurore, l'enfant martyr, qui est le classique des classiques. Et parmi les tout nouveaux, que je ne sais pas si tu as vu, c'est Le Scaphandrier. Je t'invite, toi qui aimes les nanars, je t'invite à voir ce film-là, c'est épouvantable.
On a entendu parler beaucoup. D'ailleurs, il était aux Aurores.
Il était aux Aurores, c'est un film québécois. Et c'est pas gentil de le dire, mais c'est vraiment très, très, très mauvais.
C'est dommage, mais en même temps, je pense que là, il est en train de faire sa place en tant que nanar. Là,
Il va passer à l'histoire.
The Room, on n'a même pas mentionné The Room.
The Room de Tommy Wiseau, c'est vrai, je l'ai noté. Mais la série sur Félix Leclerc.
Ah oui.
Oh mon Dieu, c'est épouvantable. Ça passait à télé.
Ouais, mais ça a pris du temps avant que ça passe à personne qui le voulait.
Ça passait après Grand Ours. Et quand ils ont diffusé le premier épisode, je me disais, mais non, c'est encore Grand Ours. Pourquoi il y a des zombies qui sortent de l'eau?
Hey, sur ça, c'est déjà la fin. Simon, où est-ce qu'on peut trouver le livre L'éloge de la nanarophilie?
Je vous encourage à le commander par Internet.
Oui, puisqu'il directement sur le site du Murmure.
Du Murmure ou par Amazon de France, puisqu'il est assez difficile à trouver au Québec.
On va... L'éloge de la nanarophilie par Simon Laperrière et Antonio Dominguez-Leva. On se voit tous au Ciné-Bazar ce samedi.
J'espère bien.
Et bien sûr, allez faire un petit don, même un petit 5$ seulement sur l'Indiegogo des Mystérieux Étonnants. On a des beaux projets qui s'en viennent. Sur ce, merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. On pourra faire un retour sur le Ciné-Bazar avec Olivier. Merci beaucoup. On se quitte sur Estradasphère qui nous chante. C'est la musique instrumentale. Ils vont nous interpréter Smuggled Mutation. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.
tourne un verre entre amis, rien de mieux que le Bar Grenade au coin de la rue Ontario-Est et Champlain. Le Bar Grenade, une brasserie orientale, tendance et branchée dans Ville-Marie. Avec nourriture d'inspiration.